J'aimerais aborder aujourd'hui un thème sur trois dimanches, car je crois que 2019, il y a nos souhaits, il y a nos projets, nos rêves, et il y a le temps dans lequel nous sommes. Et le titre que j'ai donné à cela correspond à une histoire biblique particulière où ce titre apparaît en texte littéral et va nous dire... Cette phrase que je vais vous dire dans quelques instants, je ne vais pas le dire tout de suite, cette phrase ce bout de phrase qui a résonné dans le cœur de quelqu'un qui avait besoin de l'entendre à un moment précis de sa vie, et le fait qu'elle a reçu cette parole, sa vie a été changée, la vie de son peuple a également été changée. Nous savons une chose, c'est que Dieu dirige et contrôle l'histoire. Dieu est en contrôle. Quelles que soient les choses qui peuvent nous surprendre, les tempêtes, les ouragans, les choses imprévisibles qui peuvent nous surprendre, Dieu est et reste en contrôle de toutes choses. Et c'est lui, en définitive, de manière mystérieuse, qui conduit l'histoire. C'est aussi lui qui conduit de cette manière notre vie. Parfois, et souvent même, à notre insu. Parfois on se dit, mais pourquoi est-ce que je dois passer par là? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de perdre mon temps? J'ai l'impression que ça n'avance pas? J'ai l'impression que rien ne bouge? Dieu conduit ton histoire. Si tu as donné ta vie au Seigneur, il te prend au sérieux. Si tu donnes ta vie au Seigneur, il te prend au sérieux et il va conduire ton histoire. Il va conduire ta vie. Le livre qui contient cette déclaration que je vais vous dire dans quelques instants, est un livre particulier qui n'est même pas mentionné dans le Nouveau Testament et dont le nom de Dieu ne figure pas. Ne dites rien, c'est une devinette. Pourtant, la main de Dieu est omniprésente, guidant toutes choses, en vue du salut. Vous savez, Dieu ne conduit pas juste pour conduire. Dieu a toujours une intention en conduisant. L'histoire et son intention, inscrivez-vous cela dans votre pensée. L'intention de Dieu est une intention de salut. Amen. L'intention de Dieu est toujours une intention de salut. Dieu veut sauver, sauver, sauver encore. Une intention de salut. L'histoire se passe lorsque la domination perse s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Les Juifs étaient... déportés depuis de nombreuses décennies déjà en terre de Babylonie et ils sont installés depuis plusieurs générations très loin de chez eux. Certains sont revenus, un bon groupe est revenu lorsque Cyrus, le roi de Perse, a ordonné à tous les Juifs de rentrer chez eux. Et l'histoire dont je vais simplement évoquer certains aspects, pas tout, se passe dans la capitale du royaume qui s'appelle Suse, une histoire passionnante, avec plein de rebondissements. Je suis sûr que vous allez la lire ce soir à la maison, ce n'est que 10 chapitres et que vous n'allez pas lâcher, tellement il y a du suspense. Oui, l'histoire de cet épisode de la vie d'Israël en terre étrangère raconte l'histoire d'un holocauste évité de justesse. Évité de justesse. À cause d'une personne qui était au bon moment, au bon endroit. Est-ce que vous voulez être au bon moment, au bon endroit? Elle était au bon moment, au bon endroit. Mais ça n'a pas suffi, il fallait autre chose, et c'est ça le thème de mon message. Elle était dans un lieu stratégique, et elle avait la possibilité d'avoir une influence. Vous habitez dans un lieu stratégique. Ça veut dire, mais moi j'habite un petit appartement, un petit studio, un petit quelque part. Je suis inconnu... au bataillon, qu'est-ce que je peux avoir une influence? Dieu nous place dans des endroits stratégiques pour que nous ayons une influence. C'est donc l'histoire d'une très grande délivrance que je vais vous conter ce matin, l'histoire de Esther. Mais avant de parler d'Esther, nous voulons parler de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre s'appelle Mardochée. Lui aussi fait partie des exilés juifs qui ont été emmenés avec ses ancêtres loin de son pays, en terre babylonienne. Mais Mardochée, il est resté juif de chez juif. Comprenez ce que ça veut dire? C'est rester un juif pur. Il ne s'est pas laissé assimiler au cours des décennies passées. Il est resté très droit dans ses valeurs. Il est resté sans compromis, sans aucune assimilation. Mardochée a une bonne situation. Mais Mardochée est préoccupé malgré tout le bien qu'il vit dans ce pays des Babyloniens et sous la domination perse. Il n'est pas malheureux, mais dans son cœur, il n'est pas tranquille. Beaucoup vivent aujourd'hui, ne sont pas malheureux, mais le cœur du chrétien n'est pas tranquille. Il y a quelque chose dans l'air. Aujourd'hui, les peuples s'agitent, il y a des choses dans l'incertitude, il y a quelque chose dans l'air, on n'est pas tranquille, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et Mardochée est comme ça, il se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a comme une levée, une montée d'antisémitisme. Vous allez me dire, mais moi je croyais que c'était depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait de l'antisémitisme à peu près. C'est bien plus vieux que ça. Là, nous sommes dans les années 480 jusqu'à 450, 480 et un peu plus, avant Jésus, il y a eu cette levée d'antisémitisme fomentée par un homme, le vizir du roi. Le roi qui est plutôt un roi capricieux, qui certes un immense pouvoir, dictateur, mais influençable et juste aléatoire. Mais cet homme, Aman, ce vizir du roi, va avoir une stratégie, une pensée précise, et il va poser son influence sur le roi. Et Mardochée va ressentir cette montée, ce danger, ces nuages noirs qui se lèvent et qui s'avancent vers son peuple. Peut s'en rendre compte, mais Mardochée s'en rend compte. Mardochée est lanceur d'alerte, avant-gardiste. Mardochée, c'est l'image de ce chrétien qui est attentif à la voix de Dieu. Il perçoit, il est sensible à ce qui se passe dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes sensible à ce qui se passe dans les médias? Est-ce que vous êtes conduit parce que les médias vous suggèrent? Parce que les journaux télévisés vous disent? Ou est-ce que vous êtes sensible à ce que l'Esprit de Dieu dit? Mais pour percevoir cela, il faut éteindre nos radios, nos télévisions, éteindre nos smartphones. Il faut être à l'écoute d'autres choses. Mardochée était à l'écoute d'autres choses. Il avait gardé durant ces décennies quelque chose de précieux. Il avait dit, il y a loin d'ici, dans mon peuple, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que mes ancêtres ont servi. Ce Dieu qui a donné des projets, des plans. Ce Dieu qui a un avenir pour mon petit peuple. Et il semblerait qu'il n'y a plus rien. Il ne reste rien de ces promesses, de cet avenir, de ces prophéties, il ne reste rien. Mais dans son cœur, il dit, moi je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais une chose, c'est que je suis fidèle au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je l'adorerai lui seul, et je ne plierai le genou devant personne d'autre. Mes amis, cette détermination a été fondamentale dans la vie de Mardochée. Et pour la suite de l'histoire, cette communication qui va se passer à un moment donné va être fondamentale parce que lui, il est sans compromis et il sait ce qui se veut. Frères et sœurs, Dieu veut compter sur une église qui est comme ça, qui est fondée et qui ne va pas dévier de sa trajectoire. Une église qui va être sans compromis, qui va dire quoi qu'il arrive, moi je ne sais pas ce qui va arriver. Ne traçons pas des plans et des projets, n'ouvrons pas l'Apocalypse pour dire nous sommes actuellement au chapitre 6 ou déjà au chapitre 18, que sais-je. Il y a des personnes qui veulent calculer pour savoir où nous en sommes. Mes amis, vous êtes beaucoup mieux si vous êtes en paix aujourd'hui, sans savoir exactement où nous en sommes. Nous savons ce qu'il y a dans l'air, nous savons ce qui va venir dans les grandes lignes. Mais nous savons que nous devons être prêts aujourd'hui. Et Dieu ne veut pas forcément que nous expliquions les temps et les moments où nous en sommes, mais que nous puissions être attachés à lui, proches de lui, que nous puissions être là où il nous veut, capables d'écouter sa voix. Là où tu es, est-ce que tu es capable d'entendre sa voix? Est-ce que tu es capable d'entendre sa voix chez toi, dans ta maison? Esther chapitre 4, verset 13. Dans l'histoire, Mardochée avait une possibilité de mouvement qui était assez étendue. Il avait même la possibilité d'aller jusqu'à la cour du roi. Pas plus loin, mais à l'entrée de la cour, il avait le droit d'y être. Et lorsqu'il apprend qu'il y a ce projet maléfique qui va se pointer, qui va émerger, ce décret d'extermination de tous les Juifs uniquement parce qu'il y en a un qui ne fléchit pas le genou devant Aman, et cette droiture de cœur et d'attitude va tellement mettre l'ennemi en émoi qu'il décide non seulement d'éliminer en son temps Mardoché, parce qu'il va prévoir une potence de 30 mètres de hauteur pour lui plus tard. Mais il va dire, mais ça ne me suffit pas de liquider un homme qui ne me plaît pas. Je vais liquider son peuple. Croyez-vous que cette inspiration diabolique a changé depuis l'an 500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis 2500 ans? Croyez-vous que l'ennemi a d'autres idées? Il a exactement les mêmes idées aujourd'hui, les mêmes. Il ne veut pas dire, oh, celui-là, c'est un chrétien tellement fidèle, il me résiste. Il a des victoires sur victoires. Il vit une extension du royaume de Dieu et ça ne me plaît pas, je vais l'embêter un peu. Mais le diable va dire, mais c'est lui et son peuple que je vais viser. Mes amis, nous devons être bien clairvoyants que c'est le peuple de Dieu qui est visé. Et l'histoire de l'Apocalypse nous montre, entre autres, que le peuple chrétien, le peuple en Christ, je ne parle pas de ceux qui sont un nom de chrétien, mais ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Christ, et le peuple élu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ensemble, vont être la cible de l'ennemi. Ils vont être ciblés par l'ennemi, les deux. Israël et les chrétiens nés de nouveau vont être la cible. Donc Mardoché va prendre connaissance de ce plan machiavélique, mauvais, d'extermination. Et lui va réagir instantanément. Il va déchirer ses vêtements, il va prendre un sac et on va le remarquer, il va pleurer. Et lorsque la nouvelle s'étend sur l'extermination des Juifs, eh bien toute la ville est en pleurs. Et Mardoché va arriver jusqu'à la porte. Et c'est là que nous allons lire verset 13. Mardoché fit répondre à Esther, qui est dans son palais. Nous en parlerons dans quelques instants. Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la délivrance des Juifs surgiront d'un autre côté. Alors que toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Le thème de mon message et de cette série de trois messages, c'est celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. Ah. Mardoché qui... Je vais d'abord dire qu'il y a une connexion entre Mardoché et Esther, puisque Mardoché, Esther est une fille juive. C'est quand même intéressant. La puissante Perse, magnifique et tellement sage, va avoir pour un temps une reine qui sera juive, sans même le savoir. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, dans les chefs d'État, on essaie de savoir d'où ils viennent et quelle est leur ethnie, quel est leur peuple. Et puis, il y a beaucoup de conflits qui sont dus à cause du fait que certains ne sont pas de l'ethnie ou ne sont pas du peuple qu'ils sont en train de diriger. Donc Esther est une reine qui est juive et personne ne le sait. C'est quand même gros, hein. Pour cette Perse, la puissance de l'époque qui s'étendait depuis l'Inde jusque en Afrique du Nord. Et Mardoché, donc, cet homme, ce lanceur d'alerte, cet homme de réveil, réveillé par le Saint-Esprit, ne va pas venir avec un mot d'encouragement par rapport à Esther. Donc, je ne vous ai pas encore dit, mais Esther, c'est la fille qui était orpheline de père et de mère, qui a été adoptée par son oncle Mardoché. C'est lui qui a veillé sur elle durant son enfance. Donc, Mardoché a donc ce contact qui est resté avec Esther. Le contact est resté et il se parle de temps en temps. Et lorsqu'il va donner cette lettre, lorsqu'il va répondre à Esther, parce que Esther a déjà été sollicitée, tu peux faire quelque chose pour arrêter cette extermination, il ne va pas venir avec une lettre d'encouragement. Il dit, ma chère, ma très chère, est-ce que peut-être tu pourrais faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu pourrais faire avancer mon dossier devant le roi? Vous avez déjà vu ça? Des personnes qui cherchent à faire entrer un dossier pour le placer de la du bas de la pile jusqu'au haut de la pile pour que ça avance. Il ne vient pas avec un mot de douceur, ni un mot d'amour. Il ne vient pas avec une petite parole d'encouragement envers sa nièce, dont il se sent toujours responsable. Mais il vient comment ? Avec un message d'urgence qui sonne comme un clairon, qui sonne comme un ultimatum. Nous sommes en danger de mort. Il crie de toutes ses forces. C'est un message de la dernière chance, en fait. Un message express. Et il ne faut pas que ce message express tombe dans les spams de son ordinateur, de sa messagerie. Il faut qu'elle l'entende et qu'elle le relève et qu'elle le comprenne, qu'elle le saisisse. Quelque chose doit se passer. Il faut que ce soit un message qui secoue. Frères et sœurs, nous sommes souvent très bons pour les messages d'encouragement. Je pense que la plupart d'entre nous, nous savons encourager. Nous savons dire des paroles et nous savons repérer les versets qui font du bien, n'est-ce pas vrai ? Qui n'a jamais envoyé un verset qui fait du bien à quelqu'un ? Mais ici, il se passe autre chose. Ce n'est pas un verset d'encouragement, c'est un verset qui est comme un coup de poing, voire une menace. Ne t'imagine pas que tu vas échapper toi seul. C'est carrément un message culpabilisant. Et ce message-là, on n'ose pas trop les donner. On n'ose pas trop les donner. Et Esther va recevoir cela. Esther, cette petite orpheline qui n'avait absolument aucune chance d'arriver à quoi que ce soit dans ce pays où elle a été déportée, où sa famille a été déportée. Mais elle avait un atout, c'était du charme et de la beauté. Du charme et de la beauté. Et c'est ça qui a été repéré. Il y a quelque chose sur elle qui a été repéré. Est-ce qu'elle y peut quelque chose ? Mais non, elle n'y peut rien. Elle va être repérée par le roi qui va en faire sa femme. Elle n'y peut rien. Elle a été sélectionnée à cause de cela. C'est une grâce. Mon frère, ma sœur, Dieu te sélectionne pas parce que tu as des atouts, mais il te sélectionne parce qu'il t'aime. Juste pour ça. Parce que tu es aimé. Parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il veut. Et à un moment donné, ce n'est pas son charme qui va faire l'affaire. Ce n'est pas sa beauté qui va être déterminante. Ça, c'est une grâce, rien d'autre. Mais ce sera autre chose qui va être déterminante. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que vous êtes qui est déterminant pour le monde, pour le royaume de Dieu. Mais c'est votre obéissance et votre réaction à la parole de Dieu. Votre obéissance, votre soumission à la parole de Dieu, c'est ça qui va être entre les mains du Saint-Esprit déterminant. Ce n'est pas vos talents, ce n'est pas vos dons, ce n'est pas mes compétences qui vont faire quelque chose de différent. Ça, c'est une grâce. N'oubliez pas qu'il y a la grâce et puis il y a ma responsabilité dans cette grâce. Esther va devoir prendre une responsabilité. Car nous l'avons déjà dit, il y a ce plan de Dieu pour nos vies, mais il y a aussi le plan de l'ennemi, il faut le rappeler ce matin, il y a une confrontation de royaumes, il y a le royaume de Dieu qui confronte le royaume de l'ennemi, il y a le royaume de l'ennemi qui provoque le royaume de Dieu. L'ennemi vient pour égorger, ruiner, détruire, voler, il est menteur, il est voleur, il est meurtrier. Et cette haine viscérale de Haman ne s'explique pas autrement que par le fait que c'est spirituel. C'est spirituel, c'est une haine spirituelle. L'antisémitisme et la haine des chrétiens contre les chrétiens, ça ne s'explique pas. Les chrétiens qui font du bien à leur peuple, qui font du bien à leur voisinage, qui font du bien à la société, qui prient pour les autorités, ils sont quand même détestés. Pourquoi, à votre avis ? C'est spirituel. Pourquoi est-ce que tant et tant de gens n'aiment pas les juifs ? Qui pourtant ? Ce serait tout un sujet à traiter dans un autre message, quand on voit historiquement tout ce que les Juifs ont apporté au monde, il faudrait dire, mais je vais arrêter, je ne vais pas le dire, c'est un autre sujet. Pourquoi cet antisémitisme dans le monde ? Pourquoi cet antisémitisme rampant ? C'est spirituel, mes amis. C'est un combat qui remonte à la Genèse et qui se termine en apothéose à l'Apocalypse et qui se terminera par la destruction de l'ennemi. Non seulement il sera lié pour 1000 ans, mais il sera détruit. et le Seigneur sera vainqueur. Ça, c'est le bout de l'histoire, c'est la fin de l'histoire que nous connaissons heureusement à cause de la parole de Dieu. La Bible dit encore, « Bien-aimé, ne sois pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » On se dit, « Mais j'ai rien fait pour mériter ça. Je n'ai pas commis de mal. Si nous sommes dans les problèmes à cause de nos bêtises, ça c'est une autre chose. À ce moment-là, nous moissonnons ce que nous avons semé, mais si nous faisons le bien et puis nous récoltons le mal, c'est spirituel l'attaque. C'est une attaque spirituelle. » La Bible dit encore dans 1 Pierre que c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience quand on souffre injustement. Mais le plan de Dieu va déjouer le plan de l'adversaire. Ah, Dieu a toujours un coup d'avance. Son plan précède la stratégie de l'ennemi. Ce plan mystérieux est toujours en avance. Regardez, avant que le problème n'arrive, Dieu a déjà préparé la solution. Avant que ton problème n'arrive, Dieu a déjà préparé ta solution. Regardez, avant que Goliath n'arrive sur le terrain du combat contre Israël, Dieu avait déjà oint David pour l'abattre. C'était fait avant. Avant que Goliath ne paraisse, David avait déjà reçu l'onction. Dieu avait pris un coup d'avance. Avant qu'Israël, qui campait dans le désert près des eaux de Mara qui étaient mauvaises, avant que ce problème n'arrive, Dieu avait déjà avant fait pousser un arbre dont le bois allait assainir l'eau mauvaise. Il était en avance. Avant que le péché ne fasse irruption dans le monde de toute éternité et avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé son agneau pur et sans tache qui allait être notre rédempteur, qui porte nos péchés. Avant le décret d'extermination d'Israël et des Juifs, Dieu avait déjà préparé Esther. Et avant l'heure du jugement, Dieu a préparé l'heure de grâce. Frères et sœurs, Dieu n'est pas intéressé avant tout de juger. Il est d'abord préoccupé de mettre tout en œuvre pour que la grâce s'étende de l'est en ouest, du nord au sud, sur toute la surface de la terre et même jusque sur la lune. Que la grâce de Dieu soit comme un raz-de-marée qui englobe toute la terre. Frères et sœurs, et pour véhiculer la grâce, c'est toi qu'il veut utiliser. C'est moi qu'il veut utiliser. Dieu n'est pas d'abord intéressé à juger, il va le faire. Mais avant le jugement, c'est la grâce qui compte. La grâce et le temps de grâce est là aujourd'hui. Mais pour cela, et c'est maintenant que j'arrive à la partie clé de ce message, avant, il faut que l'homme qui a reçu la grâce, l'homme et la femme qui ont reçu la grâce, puissent réagir correctement. Regardez, Esther, cette jeune juive bien élevée, qui écoutait attentivement son oncle Mardoché, qui obéissait, qui entendait si bien sa voix, elle n'est plus en état d'entendre maintenant. Elle a de la peine à émerger. Et elle est dans un autre monde, elle est dans le monde du palais, fermé par des hautes murailles et des grosses portes. Elle est dans un monde de glamour, très protégé, elle a des avantages. Elle feuillette les journaux People, elle fait ses likes sur Facebook. Elle est en train de voir ce qui se passe, elle est en train de transférer les histoires qui se passent au sein de ce palais. C'est ça son monde à elle. Elle est suivie par plein de gens, des jeunes filles qui veulent ressembler à elle. Elle soigne son image. Et déjà, écoutez bien, déjà, elle est immunisée sur la vie de ce qui se passe hors de ce palais. Elle est comme anesthésiée, embuée dans sa pensée. Sa conscience est endormie par les fastes, les fêtes et la vie facile. Elle n'est plus au courant des vrais besoins du peuple. Il fallait que Mardoché rampe jusqu'à la porte du temple couvert d'un sac et criant pour qu'on lui fasse apporter une nouvelle. Il y a quelqu'un là, tu le connais peut-être? Il est en train d'avoir un comportement bizarre. Il crie, il est triste, il est malheureux. On s'est approché de lui et il nous a remis une lettre pour toi. Tu veux bien la lire? Elle n'était plus au courant de ce que le peuple vivait. Frères et sœurs, parfois les chrétiens peuvent vivre et évoluer dans un monde aseptisé, le monde chrétien, dans lequel nous sommes tellement bien, nous sommes bénis, nous avons une super musique, nous avons tout ce qu'il faut pour bien vivre, bien évoluer, et nous ne sommes plus au courant, nous n'entendons plus les cris du dehors. Cet homme qui était couché à la porte de Bethesda, de la piscine de Bethesda, il disait, qui était là depuis combien d'années, dites-moi? 38 ans. Et qu'est-ce qu'il disait, la première parole qu'il dit? je n'ai personne. On ne l'écoutait plus, on ne l'entendait plus, on ne le voyait plus. Il faisait partie du paysage. Son cri s'étouffait à un mètre de lui. Personne ne l'entendait. Frères et sœurs, est-ce que nous entendons les cris autour de nous de détresse, de malheur, de souffrance ? Qui peut m'aider ? Où est l'espérance ? Quel est l'avenir ? Qu'est-ce qui va se passer en 2019 ? Nous sommes dans un monde parfois aseptisé, immunisé, et nous sommes très bien là où nous sommes. Les murs de son palais sont tellement épais qu'elle n'entend pas les cris du dehors, les menaces qui pèsent sur son propre peuple. C'est ça justement. Elle n'est pas quelqu'un qui est extérieur dans ça. Elle fait partie du peuple juif. Bien sûr, on ne le sait pas, mais elle le sait quand même. Elle aurait pu dire, elle a du mal à se décider, elle va commencer à se battre avec elle-même. Est-ce que je dois dire que je suis juive ? Est-ce que je ne dois pas le dire ? Est-ce que peut-être je pourrais trouver une solution différente ? Plutôt que d'aller trouver le roi à mes risques et périls, vous savez que le roi ne pouvait pas être approché comme ça, ça pouvait être un quitte au double. Donc elle n'avait pas le droit d'approcher le roi, mais elle aurait peut-être dit, je vais trouver une stratégie douce pour m'infiltrer, pour essayer de prendre des infos et puis glisser un mot, puis peut-être on va voir ce qui va se passer. Elle aurait peut-être pensé à tout un autre scénario, une approche subtile, sans faire de bruit. Et de toute façon, si je meurs, ça ne servira à rien du tout. Si j'expose ma vie, alors voyez, tous ces arguments-là d'exposer sa vie la retient. Beaucoup de chrétiens sont retenus parce qu'ils n'ont pas envie d'exposer leur vie. Mais la vie de disciple, mes bien-aimés, c'est une vie que tu as donnée entre les mains du Seigneur, je l'ai dit au début. La vie que tu as donnée entre les mains du Seigneur, est-ce qu'elle t'appartient encore ? La vie que tu as mise entre les mains du Seigneur appartient au Seigneur. Elle a été donnée et elle doit rester entre les mains du Seigneur. Tu ne peux pas la récupérer, sinon ce n'est pas un deal correct. Ce n'est pas un engagement, ça. Donc quelque part, nous avons donné notre vie pour que le Seigneur règne sur notre vie. Et nous avons besoin de nous positionner clairement aussi. C'est notre peuple qui est, c'est mes frères d'humanité. C'est toutes ces personnes qui ont un cri silencieux que je n'entends plus. Et j'ai besoin que mes oreilles se débouchent, que mon cœur se libère, que mon cœur s'ouvre. Et ce combat intérieur, il est bien là et Mardochée va venir avec cette parole style coup de poing qui va faire résonner, qui va la faire réagir, qui va ébranler toutes ses convictions et ses hésitations surtout. Ne t'imagine pas. C'est vrai que c'est fort. Mais ça veut dire quoi ? Ne t'imagine pas que toi seul tu vas échapper parce que tu es dans la maison du roi. Mais en fait, ça veut dire, tu es justement à cette place parce qu'il y a un but pour ça. C'est maintenant que le but doit se réaliser. Tu as été justement amené là où tu en es pour être l'élément clé pour résoudre le problème, pour faire quelque chose. Dieu va résoudre le problème, mais c'est toi qui vas être le déclencheur, le catalyseur pour que quelque chose se passe. C'est pour ça que cette parole est forte et nous ne devons pas avoir peur des prophéties qui parfois nous gênent, nous dérangent même, parce que c'est trop fort, ça semble trop fort. Mais ce sont des choses que l'on retient. Nous avons parlé au sein de la présidence récemment en évoquant une prophétie qui a été donnée sur Genève il y a quelques années par un prophète qui est connu en francophonie. Et cette parole, j'aimerais vous dire, ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a vraiment... Et je suis allé trouver les responsables. J'ai dit, mais comment ça se fait que Dieu nous pointe à ce point à Genève pour nous dire des choses, je ne vais pas vous le dire, mais pour nous dire des choses qui, vraiment, ne m'ont pas plu du tout. Je me dis, mais avec tout ce qu'on fait, Dieu nous dit ça, je ne comprends pas. Et cette parole est restée. Et ce que j'ai dit, c'est que moi, je l'ai retenue 3-4 ans après ou 5 ans après. Je m'en souviens encore. Parce que c'était justement une parole coup de poing qui a mis quand même en route des choses à Genève pour que l'atmosphère ou ce que Dieu nous reprochait à l'époque dans cette prophétie, ça a changé. Alléluia. Quelque chose a changé parce qu'il y avait une parole qui a remué. Ce n'était pas une parole simplement « Vous êtes bénis à Genève, vous faites du super travail à Genève, continuez. » Ce n'était pas une parole comme ça. Parce que ça nous fait du bien, oui. Mais ça engendre quoi au juste ? Ça nous fait du bien. Mais cette parole nous a tellement chamboulés qu'on s'est mis quand même à prier. Et on a mis en place des choses qui ont fait que quelque chose a bougé quand même à Genève depuis, franchement. Et cette parole, ne t'imagine pas que tu vas échapper. Parce que si tu ne fais rien, Dieu peut très bien t'enlever, mettre quelqu'un d'autre à la place pour que son plan continue. Frères et sœurs, si nous ne réagissons pas, Dieu peut très bien nous mettre sous la touche et prendre quelqu'un d'autre. Parce que son plan va continuer. Son plan ne va pas s'arrêter parce que moi, je ne collabore pas. Parce que moi, je ne coopère pas. Son plan ne va pas continuer, va pas s'arrêter là. Dieu va prendre des gens qui sont à l'écoute, qui sont disposés. Est-ce que quelqu'un est disposé ce matin pour entendre le cri du dehors? Frères et sœurs, aujourd'hui, au début 2019, nous ne sommes pas là pour protéger nos acquis, pour juste sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder. Nous sommes là, parole de Dieu en main, et toute la Bible confirme ce texte ce matin, que nous sommes là pour être de ceux qui entendent ce qui se passe dehors, ceux qui sont connectés à la radio céleste, pas radio nostalgie ou radio je ne sais pas quoi. La radio, c'était mieux avant. Ah oui, nostalgie. C'était mieux avant. Avant, on faisait ci, on faisait ça, c'était bien. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut réagir et entendre le cri du peuple qui... Vous savez, le texte biblique, quand vous lirez ça, parce que c'est un livre tellement passionnant, quand vous lisez cela, il est dit, lorsque Aman a décrété que le 13e jour du 12e mois, il allait y avoir le massacre des Juifs, toute la ville était en pleurs, et la Bible précise que Aman et le roi, ils se sont mis à boire. C'est quand même incroyable. Eux, ils se réjouissent. Ça, c'est l'ennemi. Le roi, il est manipulé par Aman, bien sûr. Et tout le peuple est en train de pleurer. Et les autres sont en train de faire la fête. Frères et sœurs, nous faisons attention de ne pas, en tant que chrétiens, de faire la fête quand il faut pleurer. Parfois, nous faisons la fête quand il faudrait faire autre chose. C'est pour ça que nos semaines de jeûne et prière, elles ont toutes leur raison d'être. Croyez-vous que je sens toujours dans mon cœur, « Ah, je sens que cette année, on ne devrait peut-être pas le faire, je ne sais pas trop. » Mes amis, c'est sur l'agenda, c'est sur le programme, et ça reste sur le programme, que je le sente ou je ne le sente pas, parce que c'est urgent et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Nous avons besoin de nous laisser toucher par le Seigneur. Nous avons besoin d'être remués par la parole de Dieu, parce que de nous-mêmes, nous sommes comme Esther. Ça nous plaît notre confort. La vie au palais, c'est assez facile, il y a plein d'avantages, je ne veux pas renoncer à mes avantages. Et certains diront, mais j'ai travaillé dur pour avoir mes avantages. Moi, j'ai bossé pour ça. Moi, j'ai payé de ma personne pour avoir ce que j'ai. Je ne vais pas renoncer à ça quand même. Et si Dieu te demandait de faire un pas, ce que tu as, c'est encore par grâce. Tout comme Esther, sa place au palais, c'était aussi par grâce. Je vois que je dois avancer. Ta vie est un investissement. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, comme Esther. Elle était rien. Mais Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde, comme Esther, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu a choisi les choses faibles, les choses petites, et vous et moi, nous sommes de cela. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée autrefois. Lorsque nous sommes arrivés ici, il y a à peu près une vingtaine d'années, un jour, un coup de fil est arrivé de l'église où j'étais pasteur avant. La dame était en grande détresse. C'est une chrétienne solide, mais en grande détresse. Et elle me dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte de notre 4e enfant, et mon mari, qui n'était pas converti à l'époque, m'oblige à avorter. Il met la pression, le rendez-vous est pris pour cette semaine qui vient. Et elle me dit, peux-tu téléphoner à mon mari? Je le connaissais assez peu. Mes frères et sœurs, ce que j'aimerais vous communiquer dans ce témoignage, c'est quelque chose d'important. J'ai donc pris ce téléphone, j'ai réfléchi, j'ai prié pendant le week-end. Le dimanche soir, j'étais en train de marcher en long et en large. J'ai dit, je téléphone pas, qu'est-ce que je fais? C'est plus mon église, c'est plus moi. Qu'est-ce que je fais? J'étais en train de marcher comme ça, les 100 pas. Je prends le téléphone, je l'appelle. J'ai dit, très très court, j'ai fait moins d'une minute. J'ai dit, tu ne sais pas ce que pourra devenir cet enfant. Et à peu près cette parole a été la seule que j'ai dit. Et cet homme a lâché prise sur sa femme. L'enfant a 20 ans aujourd'hui. ce qui a été déterminant, c'est que cet homme n'était pas converti, je vous l'ai dit, il n'était pas converti, mais sa femme, la rencontre avec sa femme et la famille a été tellement incroyable, et le fait qu'ils nous ont vus vivre a fait que notre témoignage et mon témoignage a eu un impact sur sa vie, et il avait une crainte de ma personne, de l'Esprit Saint en moi. Et cet homme inconverti m'a écouté de manière déterminante ce jour-là. Quand l'onction du Saint-Esprit est sur vous, on vous écoutera. Quand l'onction est là, ça va passer les murs de béton pour arriver. Ça va transpercer les carapaces, les murs, les boucliers de défense, de protection. Ça va tout trancher quand l'onction est là. Mais pour ça, frères et sœurs, il faudrait qu'il y ait vraiment... Il faut secouer son indifférence. Il faut reconnaître son sommeil et il faut recevoir la compassion de Dieu par une parole que vous recevez comme un sursaut en pleine nuit. Tenez, je vais vous raconter encore une deuxième histoire. Je suis en Afrique, ça fait aussi pas mal d'années. J'étais donc seul, je suis logé dans une école biblique au deuxième étage où il y avait plusieurs chambres. J'étais tout seul là-bas et voilà que la première nuit, en pleine nuit, je me réveille en sursaut. J'entends des pas cadencés, j'entends des gens qui crient. En un instant, je suis réveillé. Je me dis, c'est la guerre. Et moi, je suis ici tout seul. J'ai personne. Qu'est-ce que je fais? Mon avion ne va jamais partir. J'étais déjà en train de faire le scénario catastrophe. C'est la guerre. Qui va me protéger? Je vais mourir ici, loin des miens, etc. Et bye bye la Suisse, etc. Donc j'étais littéralement, en un instant, j'étais réveillé. Je cherche ma lampe de poche. Je ne la trouve pas. Je cherche tout à coup. Je trouve ma lampe de poche et je regarde 5h30. Et puis j'étais angoissé, j'étais en train de transpirer. Et puis vous savez, quand vous êtes comme ça, vous priez à toute allure. Hein? Vous priez comme... Et j'étais en train de faire une prière, mais qui brossait de A à Z toute ma vie. J'étais en train de prier au secours, Seigneur. Donc j'arrive, 2 heures après, je descends, mais il n'y a personne. Je descends, il était 7h30. Comment ça se fait que les gens ne sont pas en train de courir partout, en train de faire les bagages pour partir pour... Non, il n'y a rien. Et puis le frère arrive, il me dit, alors Walter, t'as bien dormi? Il me voyait pâle, il me voyait mal dormi, j'étais livide. Et puis alors il me dit, ça va, ça a été? Mais écoute, non, parce que cette nuit j'ai entendu qu'il y a, comme il y avait des militaires qui étaient en train de débarquer, quoi, qui étaient en train de tout près de notre maison. Mais il dit, mais on habite à côté de la caserne, c'est juste des exercices du matin. Mais je ne l'ai pas oublié, celle-là. Parce que quand vous êtes réveillé comme ça par un clairon, par un bruit de guerre, vous êtes réveillé d'un coup. Et ce réveil, c'est quelque chose qui a été quelque chose qui m'a marqué. Et cette parole de Mardochée a été un réveil de ce type-là. Ça a été un réveil. Ça a été un réveil. Et il faut que je termine. Et Esther va donc se réveiller dans son cœur. Elle va faire ce qu'il faut faire. Elle va rassembler tout le monde. Elle va jeûner. Elle va prier. Elle va se préparer. Elle va tout mettre, toutes les billes dans un jeu. Elle va mettre tout en jeu, sa vie en jeu. Elle va prier. Elle va jeûner. Elle va demander à tout le monde de jeûner. Elle va se mettre ensemble avec d'autres pour que son cœur soit préparé. Et lorsque son cœur sera préparé par le jeûne et la prière, la meilleure méthode, l'onction de Dieu est descendue doucement sur elle. Et lorsqu'elle va se présenter devant le souverain, le dictateur de l'époque, le plus puissant, alors l'onction et la grâce qui étaient sur elle va impressionner cet homme qui va laisser tomber toutes ses armes. Il va craquer. Frères et sœurs, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu te prépares, lorsque tu prends au sérieux le cri, lorsque tu prends au sérieux le besoin de ton peuple, lorsque tu mets tout en œuvre pour cela, il y aura cette grâce, il y aura cette onction qui va faire tout le reste du travail. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire plus. L'impossible devient possible. La prière va disposer le roi. La prière va faire en sorte que le roi ne va pas dormir une nuit. Ça, c'est aussi l'effet de la prière. Et entre les deux nuits, je ne vous raconte pas l'histoire. Lisez-la. Vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?